Bonjour à toutes et à tous, c'est un nouvel épisode de notre série de podcasts sur l'histoire cachée de l'Australie. Dans le précédent épisode, eh bien, nous avions raconté comment Napoléon Bonaparte avait tenté d'envahir l'Australie au tout début de la colonisation anglaise. Aujourd'hui, on va s'intéresser à celle qui fut son épouse, Joséphine, qui vouait une véritable passion pour la faune et la flore australienne. On va en parler avec Grégory Pless. Et avant de commencer, je vous rappelle que vous pourrez retrouver cet épisode et l'ensemble de cette série sur notre site internet SBS French, mais aussi sur notre chaîne SBS Reportage, à laquelle vous pouvez vous abonner depuis votre application de streaming audio préférée. Alors Grégory, si j'ai tout bien compris, Joséphine de Beauharnais, elle avait un faible pour les kangourous et les koalas.
Alors oui, effectivement, mais il faut préciser qu'à cette époque, c'est-à-dire fin 18e, début 19e siècle, c'est une période en fait durant laquelle il y a énormément d'avancées scientifiques, on connaît de mieux en mieux le monde qui nous entoure, et donc en fait cette passion pour ce qu'on appelle à l'époque l'histoire naturelle, en fait Joséphine, elle est loin d'être la seule à la partager. C'est d'ailleurs une passion, je peux pas vous expliquer pourquoi, mais qui intéresse en particulier les femmes à cette époque. Alors ceci étant dit, Joséphine, elle a un avantage très certain sur les autres amateurs d'histoire naturelle, c'est que son mari, eh ben, c'est un chef d'État, qui plus est un conquérant, et ça va permettre du coup à Joséphine de créer en quelques années seulement, et en lisière de Paris, en banlieue parisienne, l'un des plus beaux jardins botaniques d'Europe, mais aussi d'une certaine manière la première réserve animale du continent européen. Et je vous parle de ça, c'est plus d'un siècle avant l'ouverture du premier zoo en Europe. Pour information, le premier zoo en Europe, il ouvre en 1907 à Hambourg.
Alors cette réserve animale en banlieue parisienne, où est-ce qu'elle se trouvait exactement ?
Alors, elle se trouve dans l'actuel département des Hauts-de-Seine, le 92, et plus précisément dans la ville de Rueil-Malmaison, qui se trouve donc à une dizaine de kilomètres de Paris. On peut y aller avec le RER A, par exemple, aujourd'hui. Et en fait, la propriété sur laquelle s'installe Joséphine, eh bien, c'est un petit château qui s'appelle donc la Malmaison et qui se trouve sur un terrain de 60 hectares et dont Joséphine fait l'acquisition en 1799. Alors ce château, il faut savoir qu'il a été saisi 10 ans plus tôt par les révolutionnaires. Ils ont expulsé ses propriétaires et ensuite, ils l'ont un petit peu laissé à l'abandon. Donc quand Joséphine l'achète, eh bien, ce château, il est un peu complètement décrépit et pourtant, elle en tombe immédiatement amoureuse. Et c'est sans doute car, dès cette époque, elle imagine déjà ce qu'elle compte en faire. Comme je vous le disais, la plus belle collection de plantes et d'animaux exotiques de France et sans doute d'Europe. Alors pour y arriver, eh bien, elle utilise sans vergogne son statut de première dame. Elle va taper à la porte de tous les ambassadeurs, des explorateurs de l'époque pour leur demander de lui ramener des spécimens de plantes et d'animaux venus des quatre coins du monde. Et puis à la Malmaison, elle va aussi s'entourer des meilleurs botanistes, des meilleurs jardiniers de l'époque parce que, bien sûr, faire pousser des plantes tropicales en banlieue parisienne, eh bien, c'est peu dire qu'il faut avoir sacrément la main verte. Et parmi eux, parmi ces jardiniers, le chef jardinier, justement, c'est un certain Félix Delahaye. Et lui, comme Joséphine, il est absolument passionné par l'Australie. En plus, il a eu l'occasion de s'y rendre puisque quelques années plus tôt, il a participé à cette expédition qui était destinée à retrouver la Pérouse.
Et c'est donc l'année suivante l'acquisition de ce château que Nicolas Baudin, eh bien lui, part en expédition pour l'Australie.
Oui, alors cette expédition, effectivement, on en avait déjà parlé dans le dernier épisode, elle a un but caché et stratégique qui est de récolter des renseignements sur la colonie anglaise pour une éventuelle invasion. Mais c'est d'abord et avant tout une expédition à caractère scientifique. Et il est prévu, dès son départ depuis le port du Havre, de ramener depuis l'Australie le plus grand nombre possible de plantes et d'animaux. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si les deux navires qui partent pour l'autre bout du monde s'appellent le Géographe et le Naturaliste. Et le moins qu'on puisse dire, eh bien, c'est que cette expédition, sur ce plan-là, sur ce plan scientifique, c'est un immense succès, puisque au retour, eh bien, les zoologues, les botanistes, les astronomes qui se trouvaient à bord, eh bien, ils ont découvert plus de 600 nouvelles espèces de plantes qui étaient jusqu'à présent complètement inconnues, plus de 2500 nouveaux animaux, et ils en ont donc ramené aussi de nombreux spécimens dans les cales de leur bateau. D'ailleurs, Jussieu, qui est alors à l'époque le directeur du Muséum National d'Histoire Naturelle, dira de cette expédition qu'elle est un immense succès, que les spécimens rapportés en France représentent de loin la plus grande collection jamais assemblée.
Et pourtant, le Muséum d'Histoire Naturelle, eh bien, ces spécimens, il va en récupérer assez peu finalement.
Alors effectivement, puisque en gros Joséphine prend sa part et elle n'est pas petite cette part, puisque par exemple sur les environ 70 animaux vivants qui sont qui arrivent vivants jusqu'en France, eh bien les deux tiers vont aller directement à la malmaison chez Joséphine, qui en gros va laisser au muséum tous les animaux un peu dangereux, voilà, parce qu'il y a aussi des animaux qui sont récupérés sur la route depuis d'autres continents, des lions, des tigres, etc. Bon, ça, dans son jardin, c'est pas top. Alors du coup, ces animaux un peu dangereux, elle les envoie au muséum et elle garde les animaux qui sont inoffensifs. Et donc typiquement, depuis l'Australie, des kangourous, des wallabies, tout un tas d'espèces d'oiseaux. Et là-dessus, si vous permettez, je vais juste donner quelques détails. Il y a notamment le cas des cygnes noirs. Les cygnes noirs, en fait, c'est une espèce endémique d'Australie occidentale. On n'en a jamais vu avant cette expédition en Europe. Et Joséphine, il y a quelque chose qu'elle doit faire sûrement bien, puisque aujourd'hui, à l'heure actuelle, des cygnes noirs, il y en a partout dans toute l'Europe. Et les premiers, en fait, ils sont nés dans le jardin de Joséphine, à la Malmaison. Et un autre détail là-dessus, l'une des espèces qui a été ramenée jusqu'à la Malmaison, c'est ce qu'on appelle l'émeu nain, le dwarf emu. Ça, c'est une espèce qui est vraiment typique de Kangaroo Island. En fait, ce qui est dramatique, c'est que quelques années seulement après que l'île ait été découverte par les explorateurs européens, eh bien, ces émeunins, ils vont être complètement éradiqués parce que les explorateurs européens, justement, les chassent pour les manger. Et très vite, il n'y en a plus un seul. Et le paradoxe dans cette histoire, eh bien, c'est que les derniers spécimens vivants de cette espèce, eh bien, en fait, ils vivent à la Malmaison, en banlieue parisienne, sous la houlette de Joséphine. Voilà, donc pour terminer là-dessus, Joséphine, en quelques années seulement, elle a créé une véritable arche de Noé à la Malmaison, un lieu qui va même jusqu'à impressionner celui qui est considéré alors comme le plus grand zoologue de son époque, c'est l'Allemand Alexandre de Humboldt, qui va avoir l'occasion de visiter ce jardin de la Malmaison et qui en dira eh bien que c'est le véritable jardin des plantes, plus que celui qui se trouve dans le 13e arrondissement de Paris.
Alors des plantes, justement, Joséphine, eh bien on a fait pousser énormément à la Malmaison.
Oui. Alors pour le coup, pas que des variétés de plantes australiennes. Par exemple, elle fait pousser plus de 250 variétés de roses différentes. Il y en a certaines qui portent même son nom, la Joséphinus imperatricis. Mais on retrouve aussi, bien sûr, beaucoup d'espèces de plantes australiennes, des eucalyptus, des gommiers, les fameuses banksia, ou encore du mimosa doré, le mimosa doré qui, au cas où vous ne le savez pas, est désormais l'emblème floral de l'Australie.
Alors ce mimosa, on le connaît bien hein, quand on va dans le sud de la France, mais cette fleur, donc le mimosa doré, eh bien elle a une importance particulière pour Joséphine.
Oui, alors c'est effectivement sa fleur préférée. Elle a peut-être 250 sortes de roses différentes, mais sa fleur préférée, c'est le mimosa doré, une fleur donc endémique de l'Australie. Et le détail amusant sur le mimosa doré, c'est que c'est donc une fleur qui pousse en Australie originellement, mais qu'on retrouve aussi à des milliers de kilomètres de là, sur une petite île en plein milieu de l'océan Atlantique qui s'appelle Sainte-Hélène. Alors Sainte-Hélène, vous savez, bien sûr, c'est l'île où Napoléon a fini ses jours, exilé sous la garde des Anglais après les multiples guerres qui ont été menées en Europe. C'est là qu'on a voulu définitivement le neutraliser. Et comment le mimosa doré s'est retrouvé sur cette petite île au milieu de nulle part? Eh bien justement grâce ou à cause de Napoléon, qui, sous la forme d'une faveur qu'il a demandé à ses geôliers anglais, il a demandé à ce qu'ils puissent faire pousser et planter du mimosa doré, parce que c'était donc la fleur préférée de son ancienne épouse Joséphine, et que c'était une manière pour lui, même en détention, eh bien, de garder le souvenir de celle qu'il avait tant aimée.
Et voilà, comme quoi on peut bien mettre un continent à feu et à sang et garder un cœur tendre. Merci Grégory pour ces explications, et c'est la fin de cet épisode. Restez branchés sur notre chaîne SBS Reportage. Nous reviendrons bientôt avec un nouvel épisode sur l'histoire cachée de l'Australie.